chers auditeurs, chères auditrices, la figure de Démétrios Poliorcète, le roi preneur de ville, n'a cessé de fasciner depuis l'Antiquité. Il est significatif que ce soit le seul souverain hellénistique dont Plutarque ait jugé bon d'écrire la biographie, alors que bien d'autres rois auraient pu lui donner matière à un portrait plus édifiant. Aucune place, on le sait, n'est faite dans la galerie des vies parallèles au premier et si brillant représentant de la dynastie des Lagides, ni non plus du côté des Séleucides pour Séleucos, fondateur d'Empire, ou pour Antiochos III le Grand, adversaire malheureux des Romains. Dans la dynastie même des Antigonides, le valeureux et cultivé roi Antigone Gonatas, bien plus sage politique que son père Démétrios, a été passé sous silence. Et du tortueux Philippe V, le plus grand peut-être des rois de la Macédoine, le portrait n'a été donné par Plutarque qu'à travers celui de son principal adversaire, le consul Titus Quinctius Flamininus. C'est que la vie de Démétrios Poliorcète est pleine de retournements, de moments de gloire extrême et de complète déconfiture. Des femmes en nombre impressionnant pimentent sa vie amoureuse, sans parler de quelques jeunes gens, et surtout d'une épouse admirable, la reine Phila, dotée de viril courage autant que de sens politique. Bref, c'est un personnage qui réunissait tous les ingrédients pour susciter l'intérêt d'un biographe moraliste tel que l'était Plutarque. Aujourd'hui encore, c'est avec une attention soutenue que l'on étudie tous les épisodes où il fut mêlé, la manière dont il menait son action politique et militaire, les honneurs extraordinaires aussi qu'il put recevoir, la crainte et la haine que finalement il suscita. Et dans cette histoire tumultueuse, les relations avec Athènes occupent une place de choix. Après des années de symbiose extraordinairement étroite, dès l'année 307 et surtout à partir de 304, quand le roi victorieux entame à Athènes un séjour de longue durée, qui ne manque pas de générer, il est vrai, de fortes tensions avec les citoyens les plus attachés aux règles et usages de la démocratie, une première rupture survient en 301, après la défaite des Antigonides sur le champ de bataille d'Ipsos en Asie mineure. Où des Athéniens, d'ailleurs, et bien d'autres Grecs continentaux, enroulés de gré ou de force, perdirent la vie ou furent faits prisonniers par les troupes du roi Lysimaque. Réuni peu après en assemblée, le peuple d'Athènes, désormais sans illusion sur le prix à payer pour bénéficier de la protection d'un monarque, fût-il un dieu sauveur, décida par décret de ne plus recevoir dans ses murs aucun souverain, quel qu'il fût. Texte de Plutarque dans votre dossier. Manière diplomatique de faire comprendre au roi Démétrios que l'on ne souhaitait pas le voir arriver devant le Pirée avec sa flotte et que s'il devait s'obstiner, on était prêt à lui en défendre l'accès. L'accueil, en un mot, serait bien différent de ce qu'il avait été précédemment et à deux reprises. Démétrios eut la sagesse de ne pas insister, n'ayant guère les moyens d'entreprendre un siège, obligé qu'il était tout au contraire de refaire ses forces en rassemblant tout ce qui lui restait de places et de troupes sur le continent hellénique, autour de Corinthe notamment, tandis que d'autres cités importantes, celle de l'Eubée en particulier, paraissent avoir très rapidement suivi l'exemple athénien. C'est au cours de la traversée de la mer Égée, nous dit Plutarque, que Démétrios, qui s'étant embarqué à Éphèse, en Lyonie, prit connaissance du message un peu embarrassant que les ambassadeurs d'Athènes avaient à lui délivrer. La rencontre eut lieu probablement à Délos, qui était en pleine route, bien sûr. Tout indique en effet que le roi attachait beaucoup d'importance à contrôler cette petite île, dont les habitants lui étaient sans doute tout dévoués, eux qui, grâce précisément aux Antigonides, avaient pu se libérer de la tutelle athénienne en 314 et vivaient depuis lors en une communauté parfaitement indépendante. D'autre part, depuis cette même date, L'île se trouvait au cœur d'une ligue, plutôt que d'une confédération, de cités insulaires, Koinon Nesioton, dont Antigone et Démétrios avaient justement été les premiers patrons. Dès alors aussi, Délos devait jouer un certain rôle en tant que place de transit dans le commerce des céréales, ainsi que l'a révélé pour les années 280, en tout cas, le décret athénien en l'honneur de Callias. Et puis, bien entendu, il y avait tout le prestige de Délos sur le plan religieux comme lieu de naissance d'Apollon et d'Artémis. De fait, on a des témoignages assurés ou très probables de l'attachement de Démétrios au dieu protecteur de l'île Sainte. C'est en premier lieu un bâtiment tout à fait curieux, l'édifice dit Néorion, ou cale à navire, dans les inventaires de Délos, dont l'identification à l'extraordinaire monument des taureaux, cet édifice très allongé numéro 24, a été définitivement démontré en 1986 par l'épigraphiste français Jacques Tréheux, qui a prouvé du même coup que cet édifice, servant manifestement à abriter un vaisseau de guerre, une trière, devait avoir été offert en guise d'offrande monumentale par les Antigonides pour commémorer leur brillante victoire navale de Salamine de Chypre sur Ptolémée en 306. Il y a aussi, dans les inventaires de l'Artémision d'Élien, la mention fort curieuse d'une consécration, dans cet inventaire, pour l'Artémision, consécration faite conjointement, selon toute apparence, par le roi Démétrios et sa fille Stratonike, qui vient de faire l'objet d'une étude de Madame Elisabeth Cosmetatou, étude assez technique, mais non dépourvue de portée historique. Dans ces inscriptions administratives, en effet, on voit se répéter d'année en année, à partir de l'année 276, avec diverses variantes dans le libellé, une suite d'objets qualifiés, vous le voyez, de Démétriou Basileos, Perideraia crusa, cae periskelides, duo, etc. Et aussi une periskelida stratonicis anathema. Vous avez la traduction sous les yeux. Il y a là, comme le confirme Madame Cosmetatou, tout un attirail de parures féminines, colliers d'or, de toilettes, même de maquillage, pourrait-on dire, fuchsia désignant des boîtes à onguents, et de toilettes. Donc, tandis que le terme periskelis, quoique déjà connu par la littérature, restait assez énigmatique. Le dictionnaire Bailly y voyait une espèce de caleçon, traduction peu appropriée pour un objet que les hiéropes se transmettaient de collège à l'autre. Il s'agit bien plutôt, comme l'ont vu aussi les auteurs du nouveau choix des inscriptions de Délos, d'un bracelet porté sur la cuisse, bijou certes un peu surprenant peut-être, qui semble mieux adapté à l'activité d'une courtisane qu'à la sage conduite d'une princesse. Mais l'auteur de l'étude fait voir que le port de Periskelides, autour des cuisses, ne messied pas à une jeune fille grecque de bonne famille, pour autant qu'une fois nubile, elle en fasse don à Artémis. Or, il est une occasion où Démétrios put vouloir que la jeune Stratonis consacra tout cet attirail à l'Artémis de Délos, c'est bien sûr à l'occasion de son mariage avec le roi Séleucos, l'un des vainqueurs d'Ipsos, 301, union grâce à laquelle, en 299, selon toute vraisemblance, Démétrios parvint à sortir enfin de son isolement politique. Épisode aux suites fort romanesque d'ailleurs, puisque le prince Antiochos, fils et héritier que ce roi de Syrie avait eu d'un premier lit, devait bientôt tomber éperdument amoureux de sa gracieuse belle-mère, Stratonis. Et celle-ci, on le sait, lui fut finalement cédée de bon cœur par le roi quand on s'aperçut que le futur Antiochos Ier, consumé d'amour au point de dépérir à vue d'œil devant les médecins de la cour, impuissant à le guérir de son étrange maladie, dont la cause véritable ne fut diagnostiquée que pour le plus astucieux d'entre eux, Erasistratos de Chéos. Il faut relire cette page de Plutarque, vous ne l'avez pas dans votre dossier, on ne s'en lasse pas. Mais revenons à des choses plus sérieuses, si tant est que l'amour n'en fasse point partie. Démétrios tint donc à être bien présent à Délos, car dans ces années-là, sa puissance reposait essentiellement sur la flotte qu'il avait pu conserver intacte. Cette prétention à l'empire de la mer, du moins dans la zone égéenne, Démétrios l'a manifestée dans son monnayage d'argent tout à fait personnel, car il avait rompu, en effet, avec le monnayage traditionnel des diadoques après la mort d'Alexandre, les monnaies au type et au nom d'Alexandre. Après 301, en effet, Démétrios inaugure un monnayage original, portant au droit une remarquable victoire à la trompette, placée sous une proue de vaisseau, dans une attitude qui ressemble un peu, mais qui est plus dynamique que celle de la fameuse victoire de Samothrace au Louvre. Et au revers, un superbe Poséidon brandissant le trident avec la légende Démétrios Basileos. Imagerie on ne peut plus explicite, donc commémorative de l'impérissable succès de Salamine de Chypre et annonciatrice des victoires à venir. Qu'on se le dise, à Antioche, comme à Alexandrie, à Corcyre, comme à Syracuse, chez les Athéniens aussi bien sûr, qui prétendaient avoir en tout cas récemment encore dominer les mers, c'est Athènes qui serait visée en particulier dans l'émission secondaire, quelques années après, où l'on a donc un portrait, cette fois divinisé, cornu comme un dieu de Démétrios, et un Poséidon dans une attitude un peu différente, puisque cette fois il est debout et avec une jambe posée ou un pied posé sur un bloc de rocher, un peu courbé en avant. Et il s'appuie cette fois sur son trident avec la légende gravée, comme vous le voyez, à la verticale. Cette image pourrait reproduire une statue contemporaine, c'est probable, dont on a des répliques à l'époque romaine, l'original étant peut-être à chercher dans une œuvre célèbre du sculpteur ou bronzier Lysippe de Sicyone ou de quelqu'un de ses élèves. Mais une chercheuse italienne, Cristina Miedico, a voulu aller plus loin dans un article tout récent des Studi Ellenistici, 2010. Elle pense pouvoir défendre l'idée que ce Poséidon serait montré en train de prendre possession du rocher de l'Acropole. Du rocher de l'Acropole, ce bloc qui est au pied de Poséidon. Ce Poséidon, désormais maître de l'Acropole, après en avoir été trop longtemps évincé par Athéna au terme de la dispute mythique qui ornait le fronton ouest du Parthénon. Redevenu maître d'Athènes en 295, et monté aussitôt sur le trône de Macédoine, Démétrios aurait voulu par là célébrer sa victoire sur le peuple d'Athènes et d'Athéna. Mais cette exégèse n'est à l'évidence pas acceptable. Comment croire en effet qu'on ait pu évoquer l'éviction d'une déesse unanimement respectée, à commencer par les Macédoniens eux-mêmes, protectrice d'un lieu dont elle restait de toute façon la maîtresse incontestée, de cette manière? Car il n'y a pas trace, et c'eût été le minimum, d'un culte de Poséidon, qui aurait été instauré ou restauré sur l'Acropole à l'époque de Démétrios. Et dans quel but le nouveau roi de Macédoine aurait-il pu vouloir humilier ainsi les Athéniens vaincus? Enfin, cette théorie pêche gravement par athénocentrisme, peut-on dire, comme si toute la politique royale macédonienne tournait autour des relations avec Athènes. On ne saurait donc croire un seul instant que cette émission monétaire frappée dans l'atelier de Pella, capitale du royaume de Macédoine, ait pu se rapporter à un événement qui n'avait de portée directe, de signification, que pour une seule cité. Mieux vaut donc s'arrêter sur un document qui, lui, est en relation certaine avec les graves événements dont Athènes fut le théâtre en l'an 295-4. Il ne s'agit certes pas de revenir sur les péripéties au terme desquelles Démétrios parvint, après un long siège, précédé par plusieurs échecs d'ailleurs, à rétablir sa domination sur la ville. Mais je voudrais faire ressortir plus nettement peut-être que l'an dernier la signification probable d'une inscription athénienne assurément peu banale. C'est le préambule d'un décret dont le contenu ne nous est toujours pas connu. Situation évidemment un peu frustrante. Mais on y découvre tout de même, outre la mention d'un archonte dont le nom est accompagné de façon tout à fait insolite de l'indication Ustéros, Nikias qui vient en second, Nikias postérieur, une équivalence calendaire sans parallèle dans toute l'épigraphie attique. D'une part, en effet, le décret a été pris lors de la quatrième Prytanie, Tetartes Prytanias, ce qui devrait nous mettre vers le quatrième mois de l'année civile athénienne, puisqu'à cette époque, on l'a vu il y a une semaine encore, le nombre des Prytanies, cette division politique du temps, soit 12, correspondait désormais à celui des mois du calendrier lunisolaire. Or, le mois indiqué ici n'est pas du tout le quatrième mois de l'année, qui devrait être puanopsione, vers le mois d'octobre, mais le dixième, munikione. Ça vous sera peut-être plus clair à travers ce tableau. On aurait attendu puanopsione et on voit qu'on est en réalité en munikione. Il n'y a pas 36 façons d'expliquer cette anomalie, bien qu'elle soit unique de son espèce. C'est que dans le cours même de l'année en question, le cycle des Prytanies avait été interrompu et que l'on avait décidé de repartir à zéro. Mais bien entendu, il avait fallu raccourcir considérablement la durée de ces 12 Prytanies pour pouvoir les loger toutes dans ce qui restait de l'année athénienne, laquelle se terminait régulièrement au début de l'été. On a pu calculer sans trop de mal sur la base de l'équivalence indiquée justement dans ce préambule de décret, que chacune des Prytanies miniatures n'avait compté que 8 ou 9 jours au lieu des 36 ou 37 en temps normal. Dès lors, le commencement de cette année politique, resserré à l'extrême, puisqu'elle ne dura en tout, en totalité, qu'une centaine de jours, dut tomber aux alentours du 12 Elaphébolione, le mois ici de début de fin d'hiver, qui est le 9e mois du calendrier attique, tandis que sa fin correspondait, comme toujours, alors au 29 du mois de Scirophorion. Quel a donc pu être l'événement majeur qui provoqua vers l'année, vers mars de l'année 295, car on sait de façon sûre aujourd'hui, que c'est la date donc de Nikias. Quel est l'événement qui a pu provoquer cette véritable révolution? Il a pu paraître très tentant d'y voir la marque de ce qu'il est convenu d'appeler le coup d'État de la caresse, mais cette solution à laquelle j'ai encore pu pouvoir adhérer l'an dernier pour diverses raisons, supposerait que le tyran, ou soi-disant tyran Lacarès, ait voulu, après avoir éliminé ses principaux rivaux, proclamer leur caractère révolutionnaire de sa venue aux commandes de l'État. Or, cela ne paraît pas confirmé par les autres indices que nous avons sur la nature fondamentalement démocratique de son gouvernement. Je me range donc à l'avis de ceux qui voient bien plus tôt dans cette rupture calendaire le signe non douteux de la capitulation d'Athènes devant le roi Démétrios Poliorcète, dès ce printemps, donc de mars 295. En faveur de cette solution, retenue par Habicht dans Athènes hellénistique, tandis que ce savant avait adopté l'autre solution dans une étude antérieure, l'historien Peter Tonman a fait valoir dès 2006 un argument digne de considération. C'est que le 12 Elaphebolion, donc ce début de l'année restreinte, tombe au cœur de la grande fête des Dionysies. Or, dans un passage célèbre de sa vie de Démétrios, c'est le texte 3, je crois, du dossier, chapitre 34, Plutarque rapporte qu'au lendemain de la capitulation de la ville, le roi Démétrios avait convoqué le peuple au théâtre de Dionysos, où il entra en costume splendide, à la manière d'un acteur tragique. Par ailleurs, Démétrios, donc le théâtre de Dionysos, au pied de l'Acropole, vraiment au cœur de la ville, par ailleurs, Dionysos était mis sur le même pied, peut-on dire, que Dionysos, puisque c'est sous le nom de Dionysia Kai Demetria qu'on célébra à Athènes les grandes Dionysies. La chose est attestée épigraphiquement pour l'année 292. Et par ce moyen, on associait le roi divinisé non seulement à Dionysos, mais aussi à Déméter, Démétrios, au mystère de laquelle Démétrios avait tenu à être initié en faisant manipuler le calendrier religieux. Plutarque, par ailleurs, mentionne une cérémonie étonnante de xénismos, de repas d'hospitalité pour Dionysos et pour Déméter, les deux grandes divinités de la production agricole, étroitement associées dans la conscience populaire, comme le laisse voir ajouterai-je, car ce point est souvent méconnu, l'intimité discrète mais incontestable qui unit ces deux figures de Poséidon et de Déméter, à la manière dont l'artiste a représenté leurs jambes, leurs genoux associés de manière tout à fait étonnante, et qui sont assis donc en face l'un de l'autre, comme soudés par les genoux, ce qui n'arrive nulle part ailleurs dans la frise du Parthénon. En 295, donc, le roi vainqueur a été comme ajouté à cette paire divine, parce qu'il était un nouveau Dionysos, apportant en même temps aux Athéniens ce dont ils avaient manqué le plus pendant le siège, des céréales en abondance, 100 000 mesures de grains, d'après Plutarque. Cadeau inespéré, non seulement de Démétrios, mais de Déméter aussi. Un peu plus tard, dans le fameux hymne ou paean ithyphallique de 291 avant Jésus-Christ, en l'honneur de Démétrios, le roi est mis sur le même plan que Déméter, compagne du nouveau Dionysos. Et il est célébré comme une divinité infiniment plus efficace que toutes les autres figures du panthéon athénien, y compris Athéna. L'hypothèse de Tonemann sur la signification du 12 Elaphebolion semble ainsi pouvoir être retenue, même si, sur un point relativement secondaire, la question de savoir si l'archonte qualifié de Ustéros fut ou non en place dès avant ce tournant, a pu susciter de justes réserves de la part du spécialiste de la chronologie attique qu'est Michael Osborne. Ce qui est sûr tout à fait, c'est l'intérêt exceptionnel de cette inscription, si mutilée soit-elle, puisque non seulement elle fournit indirectement la date exacte d'un événement majeur de l'histoire athénienne, mais qu'elle paraît permettre aussi d'éclairer la signification politique et religieuse de ce tournant. Sur la période de domination macédonienne, qui s'étend de 295, plutôt que 294, on vient de le voir, à 287, je ne vais pas m'attarder longuement, car l'essentiel a été dit l'an dernier. Mais je voudrais revenir, en utilisant des données nouvelles, sur deux épisodes de cette phase assez sombre de l'histoire hellénistique, et pas seulement pour Athènes, car d'autres cités aussi de Grèce propre subirent alors le joug, voire la violence du roi Démétrios, qui partout s'appuyait sur un petit nombre de notables auxquels il confiait tout le pouvoir en son absence. On peut rappeler ici la manière dont le biographe du philosophe Ménédème d'Érétrie, cité toute voisine, s'exprime pour décrire l'action politique de ce penseur et homme d'État, délivrant sa cité des tyrans qui faisaient appel à Démétrios, apo tyrannon, Démétrion epagomenon, dans Diogène Laërce 2, 141. C'est une phrase qui a d'ailleurs été souvent mal comprise. À Athènes même, le régime alors en vigueur a été très régulièrement présenté jusque dans les inscriptions publiques comme une période d'oligarchie. On le voit dans le décret pour Callias, quand on évoque l'activité antérieure de Callias, c'est ente oligarchiae, à laquelle il n'a pas participé. Les deux décrets que je vais examiner maintenant, ou plutôt réexaminer, puisque j'en avais fait mention l'an dernier, remontent, eux, à ces années, justement, d'oppression, ce qui est déjà une chose intéressante en soi, tant les documents de cette période-là sont peu nombreux. Aucun des deux, d'ailleurs, n'émane des autorités athéniennes. L'un est un décret d'une association à Éleusis, l'autre un décret du dème de Ramnante. Le premier avait été publié en 1968, vous en avez un estampage sous les yeux, par l'Américain Eugene Vanderpool, excellent connaisseur de la topographie d'Athènes et de l'Attique, en 1968 donc. Dès 1969, le texte très incomplet de ce décret fut repris et passablement amélioré par le grand épigraphiste Louis Robert. Vous avez le texte dans votre dossier. Mais sur un point, au moins, les deux savants étaient pleinement d'accord. C'est sur la date approximative de cette inscription, en rapport avec celle d'un archonte éponyme apparaissant là pour la première fois. Il s'appelle Aristion, Aristionos Archontos, et puis Aristionos Archontos. Cette apparition, qui fut cause d'un certain émoi dans la communauté des spécialistes de la chronologie athénienne. Il y avait, Dieu merci, une petite place, aux alentours de l'an 235, pour ce magistrat tombé du ciel, ou plutôt sorti de la terre. On était donc à l'époque de ce qu'on appelle la guerre démétriaque, vers 235, quand le roi Démétrios II, petit-fils de notre Démétrios, le Polyeur VII, mena contre les Étoliens et les Achéens, ensemble, une guerre qui menaça directement l'Attique, toujours aux mains des Macédoniens à cette époque. Or, le décret fait état d'une guerre, justement, sévissant dans le pays, polemou ontos ente korai. Le mérite essentiel du personnage honoré, qui était Tamias, trésorier dans cette association, fut de préserver diasodzain, l'existence même de l'association, alors que beaucoup d'autres, le décret le dit, périclitaient ou disparaissaient alors. Il s'agissait exactement d'un eranos, le mot a retrouvé par Louis Robert au ligne 5-6, c'est-à-dire d'une espèce un peu particulière, justement, d'association, une espèce de mutuelle à laquelle on adhérait à titre individuel et auprès de laquelle on pouvait faire des emprunts gérés par un trésorier. Les membres de l'association étaient visiblement des métèques ou étrangers domiciliés, comme cela ressort assez clairement de l'onomastique de la liste qui est attenante à ce décret. Et ces gens-là frayaient avec les soldats de la garnison macédonienne, à Eleusis, car Robert a su voir que le terme « décadarchoi » à l'île 9 ne pouvait certainement pas désigner de petits fonctionnaires de l'Eranos, car ce mot est en réalité typique du vocabulaire militaire macédonien pour désigner un sous-officier commandant une escouade de 10 hommes. C'est avec ces caporaux, donc pourrait-on dire, que les éranistes d'Eleusis faisaient des sacrifices pour lesquels le personnage honoré avait fourmi les victimes et tuait metaton decadarchon. Mais voilà qu'en 1997, surtout dans un livre paru en 2003, Athens and Macedon, Stephen Tracy, spécialiste de la gravure des décréatiques, a montré que ce document, donc d'après l'écriture, se situe certainement entre la fin du 4e ou le début et le début du 3e siècle, qu'il est de la même main qu'un décret bien conservé par ailleurs, qui lui date de 301. Et on peut, je pense, lui faire entièrement confiance. Il fallait par conséquent trouver une toute autre place, bien sûr, pour l'archonte Aristion. De fait, si la liste des éponymes athéniens est bien établie jusqu'à l'année 292, il y a des flottements encore dans les années immédiatement consécutives. Le décret donc devait dater des alentours de 290, remontant ainsi de près d'un demi-siècle par rapport à la datation admise jusque-là. Dès lors, il était clair que le conflit polémos mentionné dans le décret n'avait plus rien à voir avec la guerre des Métriaques des années 230. C'était une autre guerre, et l'épigraphiste américain y a reconnu, avec de bons arguments, celle qui se développa aux frontières de l'Attique à partir de 291, quand les Étoliens, peuple de la Grèce de l'Ouest alors en pleine expansion, lancèrent des attaques jusqu'en Attique pour venir au secours des Béotiens insurgés, une fois encore contre la tutelle de Démétrios. C'est en effet l'époque où la ville de Thèbes fut assiégée et prise par le roi de Macédoine. En 290 encore, les Athéniens se virent, par exemple, empêchés de participer au grand concours des Pythias de Delphes, qui était contrôlé par les Étoniens. Et c'est donc dans ce contexte que se place également l'hymne dit ithyphalique, composé à la gloire de Démétrios. La région d'Eleusis, voie de passage vers Thèbes et la Grèce centrale, fut nécessairement touchée par les opérations militaires. On comprend alors fort bien que le personnage honoré dans le décret de l'association ait collaboré avec les décadarques, les officiers de la garnison macédonienne d'Eleusis. Ainsi, la nouvelle datation vers 290 a-t-elle reçu un bon accueil, on peut dire, de la part des spécialistes, une petite réserve près, Peter Tonneman, voulant suggérer de remonter encore la date du décret jusqu'à l'année 296, qui serait selon lui l'emplacement correct de cet archonte Aristion. Aristion qui aurait précédé dans la fameuse année 296-295 le Nicias Eusteros, mais je n'entre pas dans cette question. L'an passé, déjà, j'avais fait voir que cette tentative était donc à écarter. Car on ne comprendrait pas alors, à ce moment-là, la collaboration des membres du Thias avec les fameux décadarchoi. Donc il faut se tenir à la date de 291, et j'ai constaté avec satisfaction que cette opinion était partagée par Michael Osborne. Et donc, dans le sillage de Stephen Tracy, Osborne a trouvé une place tout à fait convenable pour cet archonte errant, en quelque sorte, hein, Aristion doit correspondre à l'année 291-0, ou moins probablement 290-89. Mais aucun de ces chercheurs, ni personne d'autre à ma connaissance, n'a cru devoir modifier, si peu que ce soit, le texte même du décret d'Éleusis, accepté tel quel depuis 1969, comme si la modification radicale de la date ne devait avoir aucune incidence sur le contenu même du document, lequel d'ailleurs semble avoir assez peu retenu l'attention, même dans des travaux récents sur les associations attiques. En ce qui me concerne, je vous avais fait part l'an dernier d'une amélioration possible, peut-être non dénuée d'intérêt, à faire dans la restitution d'une des lacunes du texte. Je crois utile de la rappeler en deux mots, puisqu'elle s'appuyait sur la datation nouvellement acquise et désormais, peut-on dire, confirmée de cette inscription. On voit en effet à la ligne 10, que les sacrifices étaient faits à une divinité dont le nom a disparu. Puis, ad Zeus Soter, bien en situation dans un contexte de guerre, puis, chose notable, vient Hygieia, Hygi, cette personnification de la santé, le plus souvent associée à Asclépios. C'est le nom de ce dieu, du reste, que l'épigraphiste Jean Pouilloux avait suggéré, en 1969, d'introduire, justement, avant Zeus, ici, dans cette lacune, To Asclepio. Mais ce supplément était peu convaincant et n'a pas été accepté, car Asclepios ne saurait être placé avant Zeus et en même temps séparé de sa compagne, Hygi. Ce serait vraiment étrange. De son côté, Louis Robert proposait, comme on le voit, d'écrire Teite Demetri Kaitoidi. C'est Déméter, tout naturellement, qui aurait occupé la première place, puisque le Thias, l'association, avait son siège à Éleusis. La restitution est incontestablement plus séduisante. On observera toutefois que la stèle n'a pas été trouvée dans le sanctuaire de Déméter à Éleusis, mais remployée à l'extérieur, au point que le spécialiste des inscriptions d'Éleusis, Kevin Clinton, n'a pas voulu insérer ce document dans son nouveau corpus d'Éleusis. D'autre part et surtout, ne serait-il pas un peu gênant que les éranistes aient sacrifié à la seule Déméter, alors que ce sont deux divinités étroitement associées, la mère et la fille, les deux déesses, qui président au mystère. Pourquoi avoir laissé tomber qu'aurait Perséphone si l'on sacrifiait à la divinité du lieu? Il m'a semblé qu'il fallait aujourd'hui oser une solution plus audacieuse, mais conforme précisément à la conjoncture de 290. Le dieu auquel ces petites gens, aux côtés des décadarques, et alors que la guerre sévissait, Polemou Ontos, n'était autre, je pense, que Démétrios, le roi lui-même, divinité alors plus présente et plus efficace que toutes les autres réunies, comme le proclame justement en cette année même le péan ithyphalique, comme on l'a dit. La restitution toi Démétrio kai, sans donc la particule T, qui était en fait une cheville pour combler la respecter le stoïkédon, cette restitution avec To Démétrio comble parfaitement l'espace de 15 lettres. Je souhaite que cette restitution vienne un jour à la connaissance des spécialistes de la religion hellénistique, dont la réaction pourra être instructive. Le second des décrets que j'aimerais réexaminer ce matin nous vient d'un autre dème fortifié, car Éleusis, c'est une forteresse aussi, Ramnonte, tout au nord-est de l'Attique. En faisant état de ce document l'an dernier, je notais qu'il était toujours inédit du fait que l'inventeur, M. Vassilios Petrakos, associé étranger de l'Institut de France, avait dû se borner à en signaler la découverte en 1993, sans pouvoir en donner autre chose qu'un résumé et un extrait dans sa publication monumentale du site de Ramnonte en 1998. Or, cet archéologue épigraphiste de renom m'a fait l'amitié de me communiquer il y a peu le texte de cette inscription, de même que celui de deux autres décrets, en m'autorisant à le commenter devant vous avant même que ce décret ne soit publié par ses soins, espérons-le, quand il aura pu mener à bien les tâches qui lui incombent actuellement en tant que secrétaire général de la Société archéologique d'Athènes. Je lui exprime donc ici, et en votre nom aussi, ma très vive reconnaissance. Il s'agit d'une pierre amputée en haut. Et d'ailleurs, en bas également, mais qui contient cependant l'essentiel d'un décret du dème de Ramnonte pour un magistrat appelé Adeimantos. Trois étapes sont distinguées dans sa carrière. D'abord, Protéron. D'abord, Protéron, donc, ayant été élu démocratiquement, Keirotonetes, au poste de stratège pour le territoire, Epitenkoran, la restitution est certaine, il s'est occupé avec zèle de la sécurité des places fortes, Frouria, ce qui lui a valu la reconnaissance du peuple d'Athènes et des soldats en garnison dans ses forts. Puis, et c'est ici que le document contient une information dont on percevait déjà la portée historique à travers le résumé donné par l'inventeur, Adeimantos a été installé katastateis, strategos epitenkoran, upo tu basileos Demetriou epiduo ete. Donc, installé par le roi Démétrios pour deux années, en rendant service aussi à ceux qui s'adressaient à lui en particulier ou en commun. Dans cette phrase ici, où il faudra probablement éliminer ce Eauton qui n'est pas en situation pour remplacer par Mégalas, Creias, Parécoménos, etc. etc. Enfin, troisième partie, plus endommagée, comme vous voyez, qui commence avec très certainement avec Nun De, le moment actuel, un nouvel événement et une guerre. Une guerre s'étant développée de tous côtés, Polemou Pericatalambanontos, il s'occupe notamment de l'approvisionnement en céréales, en veillant à la mise en sécurité des récoltes, selon des parallèles que l'on a dans d'autres décrets. La suite est donc plus difficile à reconstituer, car elle n'était certainement pas tout à fait banale, d'après les mots qui subsistent. Une chose paraît sûre, cependant, c'est que sa carrière a commencé d'abord avant l'époque de Démétrios, comme stratège élu démocratiquement. Et puis ensuite, on voit qu'il a été placé dans une époque un peu moins démocratique par le roi Démétrios. Et on peut aussi affirmer que l'on est certainement, à l'époque du décret, encore sous le roi Démétrios, puisque vous le voyez que Démétrios porte le titre royal, ce qui n'est plus le cas après dans les documents attiques. Et d'ailleurs, on pourrait douter beaucoup qu'après 287, on ait voulu honorer quelqu'un qui avait rendu de grands services sous Démétrios Poliorcète. Il est certain, d'autre part, et pour toutes sortes de raisons, que le Démétrios d'ici, c'est le Poliorcète et non pas le roi Démétrios II. Donc la guerre mentionnée ne peut pas, là non plus, être la guerre démétriaque des années 230. De fait, Vassili Petrakos, dans son résumé assez substantiel, a opté pour les alentours de 305, quand les Athéniens furent gravement menacés par une nouvelle attaque de Cassandre, guerre qui, on s'en souvient peut-être, nécessita justement l'intervention en force de Démétrios, en Eubée, puis en Béotie et surtout à Athènes. L'inventeur paraît avoir été conduit à cette datation, qui a ensuite été acceptée, en tout cas provisoirement, par le fait qu'une autre inscription trouvée par lui en même temps dans cette forteresse de Ramnonth, elle aussi toujours inédite, est datée à coup sûr de l'année 304-3 par la mention de l'archonte de cette année qui s'appelle Phéréclès. Rien ne permet toutefois de penser que le stratège honoré là, Ctesiphon, ait eu le moindre rapport avec notre Adeimantos, puisque l'on n'a pas affaire, dans l'autre cas, à un décret avec ses considérants explicites, mais visiblement à une simple couronne honorifique d'un type connu. On ne saurait donc, en tout cas, pas tenir Adeimantos pour le prédécesseur de Ctesiphon dans la fonction de stratège pour le pays, Epitenkoran, comme le voudrait un peu paradoxalement notre ami Petrakos, car cela aurait pour conséquence qu'Adeimantos aurait été nommé dans sa fonction biennale, épiduo-été, en 306 déjà, alors que Démétrios, à cette date, non seulement n'était pas à Athènes, mais que surtout, il n'avait aucune raison d'intervenir dans la désignation des magistrats supérieurs de la cité. Aussi, la datation haute suggérée par le futur éditeur m'avait-elle assez rapidement paru douteuse, et même les années 304, 301, quand Démétrios fut beaucoup plus présent et actif à Athènes, même dans ces années-là, une pareille ingérence du roi serait, je crois, sans véritable parallèle dans la documentation épigraphique, pourtant assez abondante alors, pour ces années. La nomination d'un stratège pour 2 ans eût fait alors, je crois, scandale. Car il faut bien voir qu'il ne s'agit pas ici d'un cas d'itération, comme on dit, pratique et tout à fait légale, bien attestée pour les stratèges athéniens, souvent réélus d'année en année, mais bien ici de la mise en place autoritaire de quelqu'un pour une durée excédant une année au mépris des règles de la démocratie athénienne, exception faite bien sûr des quelques magistratures quadriennales. Il me semble donc clair que si la carrière militaire d'Adeimantos dut commenter encore sous le gouvernement démocratique, en place dès avant 295, puisque notre homme fut élu tout à fait régulièrement par l'Assemblée, cette carrière se prolongea à l'époque de la mainmise de Démétrios sur Athènes entre 295 et 287. Or, on avait rappelé l'an dernier que daté précisément des années 214-13 et 213-12, les deux archontas successifs de l'homme d'État Olympiodoros. Situation qui témoigne d'une indiscutable intervention royale dans les affaires de la cité. Tout le monde est d'accord aujourd'hui là-dessus. On peut alors se demander si en 294, année où il accéda au trône de la Macédoine, Démétrios, désormais en position de force à Athènes aussi, n'aurait pas dicté aux Athéniens la liste quasi complète des magistrats supérieurs, archontes et stratèges, qu'il désirait placer aux commandes pour 2 ans, épi duo été, selon justement l'expression du très remarquable décret de Ramnonth. Mais faut-il s'arrêter en si bon chemin ? Concernant en premier lieu le nom de l'archonte disparu, au début du décret de Ramnonth, n'a-t-il pas maintenant les plus grandes chances d'être celui d'Olympiodoros lui-même, épi Olympiodorou Archontos ? Petrakos a noté, vous le voyez, que l'on devait avoir là un nom comportant une douzaine de lettres, ce qui n'est pas du tout banal pour un anthroponyme grec. Or, Olympiodorou compte exactement 12 lettres. Le décret pour Adeimantos daterait ainsi de la fin de la première année, ou moins vraisemblablement du début de la seconde année, de cet archonte, donc de toute façon de l'année 293. Dès lors, la guerre Polémos, qui avait éclaté aux confins de l'Attique, ne serait pas celle du décret d'Éleusis, examiné tout à l'heure, du côté du Citeron en 281, ce serait à l'évidence la guerre qui éclata en Béotie fin 294 ou seulement 293, quand le roi Démétrios, au dire de Plutarque, vint réprimer un premier soulèvement de la ville de Thèbes, sans parler de ce qui put se produire au même moment à Oropos, là, à la frontière à quelques 10 kilomètres de la forteresse de Ramnonte, justement, à une époque où cette ville échappa à la tutelle athénienne entre 295 et 287, alors que ce territoire avait été donné en cadeau par Démétrios lui-même en 304 aux Athéniens. En tout cas, comme je crois l'avoir montré ailleurs, c'est vers 290, le texte figure dans votre dossier, que le philosophe Ménédème d'Érétrie, alors âgé de 50 ans, ce qui est le bon âge pour un ambassadeur, vint plaider auprès de Démétrios la cause des Européens, presbeusai, pros Démétrion, hyper oropou, chez Dogen Laërs. Reste alors une dernière question en rapport avec notre décret. Qui est ce stratège Adeimantos, familier du roi Démétrios? Un Athénien inconnu par ailleurs, c'est possible, mais on ne pourra l'affirmer que si l'on retrouve un jour la partie inférieure de la stèle avec le dispositif du décret, où selon l'usage, le nom était inscrit au complet avec patronyme et démotique. En attendant, et compte tenu de la date proposée ici, il n'est pas interdit, je crois, d'émettre une hypothèse. Ce haut magistrat, bénéficiant de la faveur du roi, ne ferait-il pas, quand, éventuellement, avec le célèbre Adeimantos de Lampsac, à qui Démétrios avait confié les plus hautes fonctions avant 301. On s'en souvient peut-être, puisqu'il l'avait placé à la présidence du Synédrion des Alliés, comme le dit le décret athénien en son honneur, katastates, le même verbe, hypotou basileos Démétrio, proedros ento koinoi synedrio. En 1946, dans un mémoire qui a fait date, Louis Robert avait mis en évidence l'envergure de ce personnage. Pas un simple courtisan, pas un flatteur, mais le véritable bras droit de Démétrios en Grèce propre, l'équivalent peut-être de ce que fut pour son père Antigone, le citoyen de Cos, Nicomédès, dont on a étudié la carrière en séminaire de la semaine dernière. Mais, dira-t-on sans doute, le stratégos Epitenkoran, honoré à Ramnonte, n'était-il pas forcément athénien, alors que cet Adeimantos était, lui, un étranger originaire de la ville de Lampsac sur l'Hellespont. Deux choses, toutefois, sont à relever. D'abord, si le décret de l'Agora d'Athènes, vers 302-1, honore cet ami des rois Antigone et Démétrios, ne lui octroie pas la citoyenneté, il paraît infiniment probable qu'à une date ultérieure, ce très haut personnage fut fait citoyen d'Athènes, comme la plupart des grands bienfaiteurs, puisque en Eubée, vers le même temps, un décret d'Érétrie montre que ce Lampsacénien obtint bel et bien des Érétriens, outre l'énorme privilège d'une statue de bronze, la citoyenneté politéia. Et ces deux décrets avaient été examinés l'an dernier en séminaire. Donc, vers 301, Adeimantos a fort bien pu vouloir être intégré de manière effective dans le corps civique athénien afin d'être en mesure de briguer, le cas échéant, de hautes magistratures. D'abord, le plus démocratiquement du monde avant 295, puis, après 295, de façon un peu moins démocratique, grâce au pouvoir discrétionnaire du souverain. D'autre part, condition sine qua non, on ne peut douter qu'Adeimantos était toujours en vie vers la fin des années 90 et qu'il résidait quelque part en Attique, puisque l'illustre Théophraste, rédigeant alors, entre 292 et 287, son testament, qui nous est conservé par Diogène Laërce, au livre 5, on confia une des trois copies à Adeimantos, qui n'est autre que le courtisan de Démétrios. Puisque nous dit le biographe des philosophes, c'est le fils de cet Adeimantos, dénommé Androsthénès, comme son grand-père, qui fut chargé de remettre le document au dépositaire. C'est pourquoi, en fin de compte, l'identification des deux homonymes, le Lampsacénien, ayant fait toute sa carrière à Athènes, et le stratège athénien Honoré Aramnon, doit être regardé comme possible. C'était en tout cas d'exacts contemporains, et tous deux, bien chose remarquable, au service même du roi Démétrios. On sait que la domination de ce souverain sur Athènes devait prendre fin quelques années plus tard à la suite d'un soulèvement de la ville contre l'occupant macédonien. Dans le temps qui nous reste, je voudrais revenir un instant sur un aspect de cet événement, majeur sans aucun doute, car on ne saurait passer sous silence la récente remise en question d'un point qui paraissait définitivement établi. On se souvient que l'essentiel des connaissances sur la révolte d'Athènes contre Démétrios nous vient, hormis quelques mentions chez Plutarque, chez Pausanias, de deux ou trois décrets de la cité. Le plus important étant celui qui fut voté pour Callias de Sphétos, le début ici, au cours de l'hiver 270-69, sous l'archonta de Sosistratos. Longtemps avait prévalu l'idée que la révolte datait de 289, ainsi dans l'ouvrage centenaire de Ferguson, Hellenistic Athens. Mais depuis un siècle, les progrès réalisés dans l'établissement de la chronologie des archontes athéniens ont conduit les spécialistes à réviser cette datation. La libération d'Athènes avait en effet dû précéder de peu le début de l'archonta de Dioclès. Or, celui-ci pouvait désormais être placé de manière assurée en 286-5. Autrement dit, le soulèvement contre Démétrios datait vraisemblablement du printemps 286. Cela explique que cette chronologie ait été adoptée avec confiance en 1978 par le savant éditeur du décret de Callias, l'archéologue américain Leslie Scheer, comme en témoigne la page même de titre de son livre. Mais quelques historiens, parmi les plus autorisés, Christian Habicht en tête, ne tardèrent pas à faire valoir de solides arguments tirés de ce document même, que la date de 286 devait être abandonnée au profit de celle de 287. On avait constaté que c'était effectivement la seule façon d'expliquer l'enchaînement des faits à partir d'un épisode, la mise en sécurité des céréales, remontant sans aucun doute au printemps de 287, encore sous l'archonta de Cimon, et non pas seulement sous celui de Xénophon 287-6. Qui est le prédécesseur immédiat de Dioclès. Vous avez le tableau sous les yeux. C'est donc, au plus tard, dans l'été de 287, que le roi Démétrios, avec une armée recrutée dans le Péloponnèse, vint camper sous les murs d'Athènes. Mais loin de s'éterniser, le siège fut de courte durée, car le décret de Callias lui-même indique qu'aussitôt une paix fut conclue au Pirée, entre le roi de Macédoine, d'un côté, et le représentant de la monarchie lagide, qui était comme la protectrice attitrée des Athéniens, ce qui libérait la ville de la redoutable présence de Démétrios. Ainsi, dès le début de l'année 287-6, archonta de Xénophon, les Athéniens de la ville ont pu jouir pleinement de leur indépendance, tout en étant encore privés, la chose est certaine, d'une grande partie de leur cora, de leur territoire avec ses places fortes et surtout son port, car le Pirée restait aux mains des Macédoniens. Cette reconstitution fort convaincante, reposant sur une discussion serrée des sources documentaires, s'est imposée depuis un quart de siècle. Mais voilà que dans un volume publié en 2010, l'américaine Julien Schier, qui n'est autre que la fille de l'éditeur du décret de Callias, a remis en question ce consensus en défendant la chronologie paternelle, si j'ose dire. Soit l'année 286 pour la révolte et le siège d'Athènes pour Démétrios. Ce débat, naturellement, peut sembler dérisoire du point de vue de Sirius. Mais on va voir que sa portée, dans quelques minutes, est nettement plus considérable qu'il n'y paraît, car de la solution retenue va dépendre l'explication qu'il s'agit de trouver pour rendre compte d'un événement singulier, à savoir la décision prise par les Athéniens de ne pas célébrer en 286 la plus importante de leurs fêtes quadriennales, celle des grandes Panathénées. Je réserve la solution à la semaine prochaine.